fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Flamme.
Alors, on va parler de capitaine, mais pas du capitaine Flamme, on va parler de Au Capitaine avec Florian Syriax. Bonjour Florian.
Bonjour.
Donc tu es là sur des boîtes d'allées des jeux pour représenter les Ludonautes.
Tout à fait.
Et pour te représenter aussi toi-même,
ouais,
quelque part.
Un petit peu, mais
ouais.
Voilà, le but.
Sachant que tu es aussi l'auteur de Au Capitaine.
C'est ça,
c'est
je suis l'auteur d'Au Capitaine, donc le but c'est de montrer le jeu, faire la promo un peu du jeu, puis du coup de la gamme de Luma.
D'accord, de Luma, ouais. Alors, j'ai évité de mettre une vidéo de la fête de Luma parce que c'est vraiment trop simple et vous allez en bouffer, je pense, dans les mois à venir, des intertitres comme ça. Alors du coup, chez les Ludonautes, donc là tu es tout seul, c'est ça, au stand? Ou tu as
oui.
des bénévoles quand même?
Non, je suis tout seul,
non,
au stand,
seul.
Mais après j'ai
une table. T'aimes pas les bénévoles?
J'aime bien les bénévoles pourtant.
Mais... Ouais. Sur le stand, on peut trouver quoi? Est-ce qu'on peut encore quand même trouver les classiques des Ludonautes?
Ah non, il n'y a que le...
C'est vraiment mis
que
en avant
capitaine,
de...
Ouais.
Au Capitaine, ok. Au Capitaine, on a déjà parlé hein, chez Proxy Jeux, mais tu peux rappeler rapidement un peu le principe?
Bah, c'est un jeu de bluff à rôle tournant asymétrique. C'est-à-dire qu'il va y avoir un capitaine qui va décider, qui va... gérer un partage, et donc on va essayer de lui refiler les trucs pourris et garder les trucs bons pour nous.
D'accord.
Sauf qu'on va pouvoir se mutiner et devenir capitaine à la place du capitaine.
Ok, et donc toi, quand tu as commencé à travailler là-dessus, est-ce que c'était déjà le projet Luma, appelons-le comme ça, ou bien tu es arrivé avec un prototype de jeu qui n'était pas thématisé dans cet univers et après il y a eu une thématisation dans l'univers?
C'est la deuxième solution, c'est-à-dire que j'ai fait un jeu pour mes élèves à la base.
D'accord.
Et les Ludonautes m'ont dit, bah tiens, on a un univers, on aimerait bien mettre ton jeu dans l'univers. Et j'ai dit banco, quoi. C'est parti.
Alors la difficulté, c'est vrai que quand on crée un univers, je crois que Proxy Jeux en avait parlé quand ils avaient reçu Cédric et Anse, c'est il y a une création d'univers, une création d'une gamme quoi pour le coup. On peut parler de gamme, ce sera des boîtes similaires ou pas?
Ça sera des boîtes similaires, oui.
Donc il y a un effet de gamme au niveau de la taille de la boîte, et par-dessus cet effet de gamme, au niveau du prix également ou pas?
Ça va normalement, oui.
Ouais.
Ça sera tout le même format de boîte et de prix.
Et il me semble que la différence, ce sera que ce ne sera pas forcément les mêmes types de jeux. Là, on est dans du jeu de bluff, ça pourrait être totalement autre chose.
C'est ça.
Mais donc, il y a au-delà de cet effet de gamme qui existe chez d'autres éditeurs, là, il y a la volonté d'un univers persistant entre les jeux, des jeux indépendants les uns des autres, mais dans un univers commun et avec éventuellement des choses entre les jeux.
C'est ça. En fait, c'est une histoire commune. On raconte l'histoire d'un groupe de personnages. Dans Au Capitaine, ils arrivent dans le monde de Luma et après, ils vont à la fin du jeu, on va croiser des nomades. Donc, il y a une carte nomade à la fin du jeu Au Capitaine qui dit, ben voilà, les nomades vous rachètent vos objets et on va faire le scoring. Et Nomade, c'est le deuxième jeu de la gamme. Les nomades
qui
vont amener...
Qui est toi aussi ou pas?
Pas du tout, il est de Gary Kim.
Gary Kim, d'accord. Donc, auteur voilà. Bien connu. Ok, donc la difficulté, c'est on met un univers persistant. Je crois que, je sais plus quel... c'était pas chez Matago qui avait essayé de faire un truc comme ça avec un espèce d'univers entre les jeux. Et la difficulté, en plus, quand on fait une gamme, c'est pas de... S'il y a un jeu qui se vend moins bien et qui, entre guillemets, il n'y a pas le risque que ça se répercute, que ça fasse une tache d'huile sur le reste de la gamme?
Ça, c'est probable.
Parce que c'est le pari. C'est quelque chose d'assez audacieux hein, de faire ça. D'essayer, hier, on parlait avec Théo Théo Rivière et Ludovic Maublanc de narration dans le jeu de société. Ça peut être une des méthodes pour arriver à créer un fil rouge entre des jeux et à créer de la narration vraiment entre les jeux. Après, ouais, c'est vrai que c'est un pari audacieux pour le coup, quoi.
Tout à fait. Après, clairement, c'est des jeux aux mécaniques différentes. Et donc, il y a des jeux... Je pense que tous les joueurs vont avoir un jeu préféré dans la gamme et un jeu qu'ils aiment moins parce que le jeu leur plaît moins, parce que la mécanique est différente, parce que ça, c'est le pari. Ouais.
C'est des jeux vraiment différents. On voit chez Hilo, par exemple, que dans la gamme mini, il y a des locomotives hein, de la gamme qui permettent d'établir un visuel de la gamme. Quand tu rentres en boutique, tu as déjà un jeu de cette gamme-là, tu le vois, tu vas peut-être le prendre alors que tu n'en as pas forcément entendu parler. Il y a aussi des jeux plus oubliables. Et ouais, le risque c'est vraiment qu'un jeu oubliable peut-être fasse ouais, tache d'huile comme j'ai dit et finalement qu'ils se disent ah ben, je vais pas le prendre parce que c'est de cette gamme là et je l'ai pas aimé. Encore plus de pression sur le premier jeu du coup,
c'est
parce
ça.
Que s'il est pourri
c'est ça. Ben, il y a énormément de pression sur le premier jeu.
Ça va, tu le dis bien?
Bah écoute, ouais.
Et ils t'ont choisi parce que tu sais gérer la pression.
C'est ça. Après, moi clairement le jeu en soi il a été adapté pour la gamme, il a été vraiment englobé par la gamme. Donc là, pour moi, c'est plus devenu mon jeu, c'est devenu le jeu de la gamme Ludonautes, et donc je partage la pression avec eux.
D'accord. Tu leur mets plus.
Ouais, c'est ça.
C'est toi qui leur dis, vous avez intérêt à ce que ça marche, sinon je travaille
pas
avec vous.
Sinon vous avez pourri mon jeu, je vous déteste, parce qu'il était génial.
T'as été embauché chez Ludonautes, il me semble?
Non, pas du tout.
Non,
pas non,
du tout.
C'est juste auteur, j'ai signé un contrat chez eux. Et...
D'accord, ok.
Voilà.
Passer après Colt Express, ça va aussi?
Ouais, c'est dur.
Grosse pression.
Ouais,
c'est ouais.
ça.
Et alors l'idée du jeu, un petit peu pour rester sur le côté auteur, elle vient d'où, le côté bluff, etc. D'autres jeux de bluff que tu as aimé
Ouais, c'est exactement. En fait, je fais jouer mes élèves en classe.
Et t'es prof de à quel niveau?
Alors, je suis un stitch, je bosse en SECPA en collège.
D'accord, ok, ouais. Voilà.
Donc des 12-16 ans.
Donc des gamins parfois en difficulté scolaire qu'il faut réussir à motiver, à
c'est
mener
ça.
Des projets.
Et du coup, par le jeu, c'est vraiment
régal. Ouais. Il y a Lionel Borg qui a fait d'autres jeux aussi. Il travaillait aussi en SECPA. Il m'avait dit qu'il avait monté un projet de festival de jeux de société dans son collège aussi pour essayer de... Que ça ne marchait pas toujours avec toutes les classes, mais que c'était un... Ouais, donc des jeux en classe.
Ouais, et du coup, il jouait à Complot beaucoup. D'accord. Et il trouvait ça très bien, mais assez complexe parce qu'il y a énormément de possibilités. Et très punitif parce que quand tu te trompes, tu meurs.
Ah ouais.
Voilà. Donc le but c'était de partir de ça, mais ajouter aussi de la nouveauté. Et c'est là qu'est venu le rôle de capitaine tournant en fait.
Ok. Et donc donc Luma uniquement, le jeu sort quand?
Le jeu sort la semaine prochaine.
La semaine prochaine, donc il est sorti quand vous écouterez cette interview. Comment est-ce qu'on communique comme ça pour faire comprendre? Déjà, communiquer sur un jeu qui va arriver, c'est déjà complexe. Il y a déjà tout un travail de communication. La communiquer sur, il y a ce jeu qui arrive là, mais c'est pas le seul, il y a une gamme, il y a un univers. Comment est-ce qu'on fait pour justement essayer de faire une communication un peu globale comme ça?
Alors ça, du coup, moi, c'est pas du tout mon job.
Ouais.
C'est plus Yann Parovel qui est chargé de ça, là. Moi, quand je le présente sur le festival, je dis que effectivement, il va y avoir une gamme, il va y avoir une série de jeux, et que c'est le premier, et que je suis l'auteur du premier, mais pas des autres.
Et que ce sera le meilleur?
Non,
non,
pas
tu
du
dis
tout.
Pas ça.
Non, mais le deuxième, celui de Gary Kim, je l'aime beaucoup.
Et il a travaillé sur quoi, Gary Kim? Parce que il a fait Le Lièvre et la Tortue et Souk, qui sont deux jeux. Moi, pour avoir joué aux deux, qui sont assez similaires, même si c'est dans des univers visuels totalement différents. Donc Souk chez Bombix, c'est Le Lièvre et la Tortue chez Purple Brain. Mais où il y a un mécanisme de pari comme ça qui revient un petit peu. Là, il a travaillé sur quelle mécanique?
Alors là, c'est une espèce d'égrenage avec de la collection.
D'accord, ok, ouais, donc un jeu de collection, ok. Donc ouais, effectivement, communiquer. Et là, le terrain, ça fait combien de temps que vous communiquez sur le terrain pour Luma? Parce que il y a aussi un compte Twitter spécialement pour la gamme, ce qui est pas forcément. Enfin, ça existe dans le jeu vidéo ou dans le cinéma de faire un compte Facebook ou Twitter pour un jeu vidéo. C'est vrai que c'est encore assez rare dans le jeu de société, ça existe, hein, mais plus pour des protos à la limite, mais c'est vrai que faire un compte Twitter pour une gamme, c'est relativement rare quand même, quoi.
Ouais, ça c'est pareil, c'est Yann qui est parti dans
cette direction. Jeu,
il est issu
de l'animation,
Yann,
plein de trucs à côté,
donc il a chopé un peu des techniques de communication un peu partout, et puis voilà, il est vraiment sur ça là.
C'est toi qui présentes à chaque fois ce premier jeu là dont tu es l'auteur?
On essaye, ouais. Les Ludonautes me proposent sur tous les festivals de m'envoyer pour montrer le jeu, pour faire les démos, tout ça. Parce que pour le public, c'est agréable aussi de jouer avec l'auteur.
Tu dis que t'es l'auteur ou c'est... Ouais, au public.
Ouais, je le cache pas.
D'accord. Donc, ça fait combien de temps qu'il tourne sur le festival celui-là? Parce que c'est vrai que le projet Luma, je pense que ça date... la première fois qu'on en a entendu parler, ça devait être début 2016 par là.
Alors,
courant 2016. Toi, tu le présentes depuis quand en fait, au Capitaine, sur les festivals?
Luma, moi, j'en ai entendu parler début juin l'année dernière.
D'accord.
Sur les festivals, Luma, j'en parle depuis 2 mois, peut-être.
Depuis 2 mois, d'accord.
Parce qu'avant, c'était en création et justement, c'était un peu secret. Il ne fallait pas en parler tant que l'univers n'était pas tout à fait créé, tout à fait fini. Et là, maintenant que le premier jeu sort, on peut commencer à parler de la gamme et à en expliquer un peu.
Et en tant qu'auteur, justement, quand il faut s'inscrire dans un univers comme ça, est-ce que... au niveau du développement et du travail en collaboration avec l'éditeur, comment ça se passe? Parce que c'est vrai que, est-ce qu'il y a des mécaniques qui ont été influencées du fait qu'il faille... Est-ce que tu as des éléments mécaniques qui ont été influencés justement par le fait de devoir s'inscrire dans une gamme, dans un univers?
Dans le jeu, typiquement, oui, les pouvoirs des personnages ont été créés en fonction... En fait, ont été adaptés en fonction des personnalités des personnages qui avaient été créés pour le monde.
D'accord, ouais.
La mécanique centrale, par contre, n'a pas été modifiée pour le jeu.
Comment tu collabores avec les Ludonautes à ce niveau-là? Est-ce que c'est... un travail en parallèle et en commun, ou bien c'est chacun travaille un peu de son côté pour essayer d'arriver au bout?
Ça a été, on a passé 2 mois et demi l'année dernière, de juin-juillet complet et début août, à s'appeler, à se voir, à faire des allers-retours et à faire 12 milliards de tests, parce que du coup, comme c'est un tout petit jeu avec pas beaucoup de mécanique en fait, dès que tu touches à un grain de sable, tout s'enraye, et donc il fallait recommencer, retester, retravailler.
Et alors le titre, est-ce qu'il y a une référence au Cercle des Poètes Disparus?
Tout à fait,
ça vient de là,
c'est le prototype s'appelait Pillage, okay. Parce que c'était dans un thème pirate assez basique où on pillait un navire anglais. On est resté un peu sur ça au début, et il s'appelait toujours Pillage. Et quand on a commencé à faire tourner le prototype en festival, on disait bah, capitaine, je te propose ça. Et les gens en fait disaient oh capitaine, je te propose ça, oh capitaine, je te propose ça. Et on a dit putain, mais il faut. C'est des anciens profs, moi je suis prof encore, donc la référence au Williams, c'est parfait.
Est-ce que tu es devenu prof est-ce que tu fais partie de ces gens devenus profs à cause de Robin Williams ou grâce
non.
À non.
Non, non. Mais c'est vrai que je pourrais dire ça en fait, ça serait classe.
Ouais, fais-le pour les prochaines. Ouais. Et du coup, alors comment se passe le festival là? On est dimanche. Hier, il y a eu un peu de pluie. Vous avez pris une tente en extérieur. C'est toi qui as choisi l'extérieur?
Non, ça a été choisi par les Ludonautes. Par contre, moi, je trouve ça agréable parce que il y avait de l'air, c'était bien.
Ouais. Ouais, et les tentes sont assez solides, quoi.
Ouais, ouais. Et il n'y a pas eu de pluie, enfin, pas dans la tente en tout cas. Et du coup, les gens se réfugient dans la tente assez rapidement quand ils arrivent.
Et du coup, ils jouent.
Du coup, ils jouent.
Et comme
coup,
ça, tu les attrapes au passage.
Hein, c'est ça. On a Maxime qui est arrivé de Proxy Jeux. Bonjour Maxime.
Salut Flavien. Ouais, j'interviens un peu à l'emporte-pièce là, donc.
C'est pas grave, tu peux emporter les pièces autant que tu veux.
Salut Florian.
Et alors, ouais, donc la première journée s'est bien passée, beaucoup de joueurs sur les tables. Est-ce que les gens viennent, comme il y a quand même pas mal de communication sur le projet en amont, en se disant je veux tester au capitaine des légendes de l'UMA?
Dans les professionnels du jeu, il y en a pas mal qui m'ont dit ça. Après, le public, non.
Non, il vient, c'est un public.
Tiens, le jeu est joli, ça a l'air sympa, est-ce qu'on peut jouer?
Et alors, ils sont convaincus. Est-ce qu'ils t'appellent au capitaine après?
Alors, déjà, ouais, moi je force les gens à dire au capitaine.
Et est-ce qu'ils se mettent debout sur les bancs?
C'est ce que je leur ai dit. Ouais. Les gens qui aiment, ils se mettent debout sur les bancs et sur la table. Mais ouais, non, après, alors, donc les gens ils disent ouais, c'est super, on aime bien, on s'est éclaté, tout ça. Après, t'es l'auteur, t'es en face, les gens sont polis,
ouais,
donc tu sais pas vraiment.
Ah ouais, c'est ce que nous disait Maxime Rambourg hier. Lui, il aime pas trop dire qu'il est l'auteur, mais il dit c'est bien parce que du coup, il y a Kevin ou il y a les bénévoles qui disent que je suis l'auteur, j'ai pas à le dire. Il disait comme ça, ça m'évite de le dire. Et il disait, à la fin, puisqu'il dirige la fin de l'ours, il disait que souvent il fait jouer ses jeux et que sans dire qu'il est l'auteur, et que des fois. Alors sans qu'il ait eu c'est de la grosse merde quoi. Il y a des fois des trucs où il se dit ah ok, mais que bon lui il disait j'ai pas mal de recul donc j'accepte les critiques, mais c'est vrai que ça doit pas être facile comme ça d'animer un jeu que tu as créé.
Bah, j'accepte les critiques aussi, il y en a de temps en temps. Il y a des gens qui galèrent parce qu'ils aiment pas les jeux de bluff, voilà.
Ouais, ça c'est un truc particulier.
Après, ils sont trop honnêtes pour jouer aux jeux de bluff.
C'est ça. Ouais. Et puis en plus t'es obligé de mentir à un moment là dans le jeu, donc. Ouais. Et puis après il y en a qui trouvent que la mécanique est un peu trop contre-intuitive et qui me disent bah tiens là j'ai pas très bien compris, j'accepte moi, il n'y a pas de souci.
Alors aujourd'hui on est dimanche, ça se passe bien pour l'instant aussi?
Très bien, en plus il fait beau
là aujourd'hui. Il fait beau, ils ont prévu du beau temps, il a plu toute la nuit, mais toi t'as bien vécu ta journée de samedi sous la pluie?
Ouais, c'était bon, j'ai survécu.
Que penses-tu du Memphis, Florian? Le Memphis.
Ah, le Memphis c'était pas mal.
Qu'est-ce que t'as pris au Memphis?
J'ai pris un double Sloppy Joe.
Ouais. On a vu qu'au Memphis il y avait un meilleur ouvrier de France qui avait fait une des sauces du truc. Alors ouais, est-ce que tu as découvert des choses à Strasbourg que tu ne connaissais pas? Tu étais déjà venu à Strasbourg?
Alors c'est la première fois que je viens à Strasbourg.
Est-ce que tu as mangé des bretzels au moins?
C'est la première chose que j'ai fait en arrivant hier.
Gavage de bretzels sur le week-end.
C'est deux bretzels et une bière. C'était. Après je me suis installé sur mon stand. J'ai même pas déballé le jeu tant que j'avais pas mes bretzels.
Ouais. C'est je viens, ok, les Ludonautes viennent, mais il me faut des bretzels.
C'est ça.
Est-ce qu'ils financent les bretzels?
Non, mais je vais garder les factures, c'est une bonne idée.
Ouais, ouais.
J'avais une petite question, c'était suite au passage des Ludonautes dans l'émission au mois de septembre. Sur le chat, tu étais intervenu et tu voulais parler des diagrammes de Venn. Est-ce que tu peux nous donner la définition? Parce qu'à un moment on parlait un peu de physique et tout sur.
Putain, je me rappelais plus. Les diagrammes de Venn, c'est la théorie des ensembles en fait, qui vont se croiser les uns les autres. Et je sais plus pourquoi j'en parlais. Mais du coup, tu vois, je sais pas, en diagramme de Venn, là, je te dirais bien que t'as un ensemble avec les jeux, un ensemble avec le monde de l'UMA, et du coup, mon jeu, il est dans le croisement de ces deux ensembles.
D'accord, donc c'est la réunion des deux ensembles, c'est ça, entre la thématique et mécanique. Hein.
Et t'as pu visiter Strasbourg ou c'est vraiment trop speed?
Pas du tout.
T'as pu visiter Rive Étoile, quoi. Enfin,
j'ai fait hôtel, festival, Memphis, hôtel. Mais je repars demain après-midi, donc j'aurai un peu de temps demain matin pour me balader.
C'est le plaisir du festival un jour férié, la veille d'un jour férié. Là, le programme pour l'UMA, maintenant, une fois vu que ça va sortir la semaine prochaine, la communication, elle va sûrement différer. Alors, tu disais que t'es pas spécialiste là-dedans, mais d'un point de vue de l'auteur, ton travail est fini ou bien tu vas continuer à aller sur festival, sur des événements, sur du terrain pour le présenter?
Non, moi j'ai envie de te dire, le travail recommence en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu une énorme dose de travail l'année dernière pour la mécanique du jeu, et maintenant il y a le travail de promotion du jeu. C'est-à-dire que tout ce qui était intermédiaire, les illustrations, le design, l'esthétique de la boîte, tout ça, c'est toute la production en fait, c'est pas mon travail. Par contre maintenant la promotion, ça fait partie de mon travail aussi, en tout cas pour moi, pour ce jeu. Donc du coup là c'est la tournée des festivals avec démonstration, de sur-démonstration du jeu.
Et quand on promeut un jeu comme ça, justement, tu as sans doute d'autres projets dans les cartons en tant qu'auteur, comment est-ce qu'on gère, en fait, et t'es prof, tu disais, donc voilà, tu as peut-être aussi une famille, des amis, des loisirs, autres que le jeu. Comment tu fais pour gérer à la fois la promotion de Luma, le développement de prototypes, le développement de choses qui sont déjà signées chez des éditeurs et sur lesquelles tu es consulté? Est-ce que tu arrives à avoir des journées de 48 heures? Et si oui, partage ton secret.
Eh bien, c'est justement, je ne dors pas beaucoup. Mais ouais, c'est une des questions que je me posais, en fait, que je commence à me poser maintenant, parce qu'effectivement, j'ai des protos chez pas mal d'éditeurs. Et la grande question, c'est comment je partage mon temps? Est-ce que... comment je calcule ma proportionnalité, mes diagrammes de Venn et mes intersections entre les éditeurs, en fait.
Et est-ce que y a la question aussi de se professionnaliser à un moment? Est-ce que ça pourrait... Alors, tu continues à être prof pour l'instant, à plein temps?
Ou je suis prof à plein temps.
Ouais. Hein. Est-ce qu'il y aurait l'idée de basculer à trois quarts temps ou mi-temps ou tout simplement arrêter?
Ça m'est pas venu à l'idée parce que j'adore mon boulot, en fait, au collège aussi.
Ouais.
C'est vraiment...
Tu aurais fait jouer à Luma?
Ouais, bah oui.
Et tu leur dis que c'est toi qui l'as créé,
alors,
le jeu aussi?
Alors, ce jeu, je l'ai créé pour eux, déjà. Du coup, d'accord, tu regarderas au dos de la boîte dans les remerciements, c'est eux les premiers, ouais, c'est les élèves de Sérignan.
C'était tes premiers bêta-testeurs, hein.
Ah ouais, ouais. C'est, en fait, vraiment, je l'ai fait pour eux, ce jeu. Donc, ils ont fait toutes les versions.
Est-ce qu'ils auront droit à des exemplaires auteurs?
Ils auront droit à des exemplaires auteurs dédicacés. Ils vont me dédicacer ma boîte. Et quand ils ont vu le produit fini, ils étaient... je crois qu'ils ont dit à peu près 50 fois que le jeu était stylé.
Et là, ils sont montés sur les bancs.
C'est ça.
D'accord. Et alors, en tant qu'auteur, du coup, là, Ludonaut, ça va vraiment être Luma, je pense, les prochains mois, l'actualité. Beaucoup communiquer dessus, de travailler sur Nomad, du coup, qui va arriver après. Toi, du coup, tu as travaillé sur Ocapitaine. Est-ce que tu as un regard quand même sur Nomad, vu que c'est le même univers, ou bien toi, c'est Ocapitaine, et puis pour l'instant, c'est tout?
Non, je suis pote avec les Ludonaut, on passe plein de temps ensemble, et donc je travaille aussi sur, en extérieur, sur le développement des autres jeux. C'est-à-dire que je teste, je donne mes avis, je donne des commentaires, et Cédric écoute en général ce que je dis. Donc, puis ouais, j'aime bien m'impliquer dans ce qu'il fait là.
Ouais.
Donc toute la gamme.
Et donc en tant qu'auteur, t'as quoi d'autre dont tu veux parler, qui est sorti il y a peu, qui va sortir d'ici peu?
Alors j'ai Imaginarium chez Bombix avec Bruno Catala.
Est-ce que c'est inspiré par le film de Gilliam?
Eh ben, je ne sais pas si c'est de là que vient le titre, mais il faut que je le vois, je l'ai toujours
c'était
pas vu.
C'était l'Imaginarium du Dr. Parnassus avec S. Ledger, Johnny Depp et Colin Farrell aussi, je crois qu'ils jouent tous le même rôle. Mais ouais, donc ouais, et vas-y, continue.
Et donc non, c'est pas inspiré de là, en tout cas pour le jeu, le titre probablement. Après j'ai Save the Meeple chez Blue Cocker.
D'accord, ok. Il continue sur Meeple War, il
c'est
avait
ça.
Déjà ça.
Voilà.
C'était l'origine des Meeple, pour... et là c'est
maintenant,
le
tu
futur
répares les dégâts, c'est ça?
Alors en fait non, c'est que les Meeple sont devenus indépendants, tout va bien, ils ont des cristaux qui leur permettent de vivre sans les Lilliputiens, sauf qu'il y a des contes d'humains qui veulent les prendre et les foutre dans des boîtes.
Ah, c'est humain.
Donc du coup, les Meeple vont se battre contre les humains, voire essayer de s'échapper.
D'accord, donc on continue quand même une espèce d'histoire,
c'est ça,
d'histoire des Meeple, quoi.
Voilà, et après il y a le troisième tome qui est en travail aussi.
Ils deviennent potes, c'est ça.
Meeple in Space.
Ah, il est aussi parti sur un truc de gamme, il a tout piqué au Ludonaut.
Ouais, non, mais tout, le mec il a pas d'imagination.
C'est fou ça. Donc ça, et c'est quoi au niveau mécanique du coup?
Alors c'est une mécanique de programmation de placement d'ouvriers. Voilà, tu vas placer tes Meeple dans des trains, en fait. En te disant, je veux aller.
Toi, tu veux ton code d'express aussi. Est-ce qu'ils vont faire un 3 en 3D?
Oui.
Ouais.
Ouais, on pique tout lui de notre. Ouais. Mais c'est assumé. Hein. J'ai dit à Cédric qu'on lui piquait sa gamme, on lui piquait son train.
Et ouais. Donc, placement d'ouvriers.
Donc, tu te places dans un train, tu dis par exemple, je vais aller à la mine pour récupérer des ressources. Donc, tu te places dans le train. Sauf que quand tu te places dans un train en premier, tu te mets à l'arrière du train. Donc, tu vas jouer tes actions en dernier quand tu arrives. Donc, forcément, tu vas te faire avoir. Donc, il faut arriver à temporiser, à se mettre à l'avant du train si possible. Mais il faut que tu t'y mettes avant que le train s'en aille. Donc il faut que tu gères, et à ton tour c'est très simple, soit tu te places dans un train, soit tu envoies un train, soit tu ramènes un train.
D'accord, ok, donc Imaginarium ça, c'est et Save the Meeple dans l'année, c'est ça?
C'est prévu, je pense, pour aux alentours de Noël et Cannes.
D'accord, et bon, ça fait déjà une bonne prévision, il y a d'autres trucs qui sont prévus déjà?
J'ai
dont
un
peux
jeu
parler.
Signé chez Blam.
D'accord, dont, Blam, donc voilà. Celestia et...
Et Denia.
Et Denia, c'est ça?
Alors d'accord. Ça c'est prévu pour l'année prochaine, j'en parlerai.
Il y aura le temps de communiquer déjà dessus. Ok, et donc sur Festival, comment tu arrives à te partager entre tous ces différents projets à défendre, à présenter?
Eh bien, c'est compliqué.
C'est compliqué. Après le dédoublement de la journée, tu arrives à inventer le dédoublement de la personne.
Le dédoublement de la personne.
Donc tu te divises en quatre, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est compliqué parce que du coup, les éditeurs demandent est-ce que tu peux venir, est-ce que tu peux animer le jeu. Moi, je dis avec plaisir, mais le problème, c'est qu'il y a l'éditeur qui paye l'hébergement et l'hôtel. Et puis du coup, tu te dis, je suis un peu redevable à eux. Et puis l'autre, ouais, qui te paye le resto. Du coup, il faut calculer combien a coûté le resto, combien a coûté l'hôtel. Tu divises, tu fais un tableau de proportionnalité et tu vois combien de temps tu passes sur chaque stand.
Et le diagramme.
Alors pour toi, je te dois 2h53
c'est
de présence.
C'est voilà.
Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, que ce soit sur comment se passe le festival, sur un jeu que tu as pu essayer hier, sur plein de choses.
Le festival se passe super bien, il fait beau. Et hier, j'ai essayé 3 jeux complètement débiles, mais géniaux.
Ouais.
Donc voilà, c'est bien parti.
Et est-ce que tu comprends l'accent alsacien? Parce que
c'est
des accents diamétralement opposés, là.
Non, ça va. Il paraît que j'ai pas trop l'accent du sud, moi.
Non, ça va.
Non, ça va.
Ça va, on a connu Pierre.
Okay, après, je peux le faire, ça me dérange pas. Hein, l'accent bitérois, je connais.
Maxime, un petit mot à nos auditeurs pour leur dire bonjour. On n'est pas en direct, hein, mais tu peux leur dire bonjour quand même.
Bonjour à tous. J'ai pas malheureusement dû abandonner Flavien hier, mais il a très bien géré tout seul, à la fois la technique et les interviews. Et donc je le rejoins aujourd'hui. Et
ça, c'est parce que je suis prof, tu vois. Ça, c'est le talent de l'éducation nationale.
Ça, c'est ça, t'es versatile.
C'est ça. Ouais. Ok, écoute, merci Florian.
Merci à vous.
Bonne continuation pour le festival. Ciao.
Et bonne journée.
À toi aussi.